Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 24 novembre.
Covid-19, les indicateurs sanitaires repartent à la hausse. Séoul rejoint l'initiative américaine de relâcher les réserves stratégiques de pétrole. Samsung Electronics construira sa nouvelle usine de semi-conducteurs aux États-Unis. Présidentielle 2022, Yoon Suk-yeol en tête d'un nouveau sondage devant Lee Jae-myung.
On ouvre ce journal avec l'évolution de la crise sanitaire. Le nombre de nouvelles contaminations au Covid a progressé de quelques 1400 cas sur une journée. De plus, un premier pic quotidien de décès lié au coronavirus a été enregistré en 4 mois. Les indicateurs sanitaires n'en finissent pas de s'aggraver. Même constat du côté des patients victimes de formes graves. Leur nombre a augmenté de 37 par rapport à la veille pour totaliser désormais 586 individus. Le gouvernement avait précédemment assuré qu'il pourrait gérer la situation de manière stable si ce chiffre restait inférieur à 500. À l'origine, l'exécutif devait commencer la semaine prochaine une évaluation de la première étape d'un retour progressif à la vie normale, lancée le 1er novembre dernier, avant de mettre en place les mesures allégées à compter du 13 décembre pour sa deuxième phase. Pourtant, ce passage semble devenir difficile en raison de la forte hausse des patients dans un état grave et critique.
Dans l'actualité internationale, c'est une initiative inédite. Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole, appelées aussi RSP, afin de tenter de faire baisser les prix de l'or noir en forte augmentation. Il s'agit de fait d'utiliser un total de 50 millions de barils, 18 millions dans le cadre de ventes directes déjà avalisées par le Congrès, et 32 millions sous forme d'un échange. L'opération se fera sur les prochains mois. 5 autres pays, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Inde et le Royaume-Uni, ont eux aussi annoncé qu'ils rejoindraient cette initiative. L'administration américaine a pris une telle décision face au rejet de sa demande aux principaux pays producteurs de pétrole. Elle les a exhortés à plusieurs reprises à augmenter leur production, en vain. De quoi amener le président américain Joe Biden à persuader son homologue chinois Xi Jinping de libérer une partie des réserves de son pays lors de leur récent sommet virtuel. Cette action coordonnée nous aidera à faire face au manquement d'apprivoisement, ce qui contribue à son tour de faire baisser les prix, a déclaré l'hôte de la Maison-Blanche. Par le passé, les USA avaient pris les mesures identiques à 3 reprises. La dernière en date remonte à 2011, lorsqu'elle a éclaté la révolution en Libye, pays membre de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, appelée également l'OPEP. En annonçant hier sa participation à l'initiative américaine, le gouvernement de Séoul a justifié sa décision par la nécessité de faire front commun face à la flambée du cours du baril, ainsi que par l'alliance avec Washington, et d'ajouter que la quantité des réserves à relâcher et la date seront déterminées après consultation avec le bord américain. Pourtant, il paraît encore difficile de s'attendre à la baisse des prix de l'essence. L'OPEP Plus, mécontente de l'alliance des 6 États gros consommateurs, a laissé entendre qu'elle pourrait revoir son projet d'augmenter sa production. En effet, hier, le marché a à peine réagi. À New York, le baril de West Texas Intermediate, appelé également WTI, pour la livraison en janvier, a gagné 2,3% par rapport à la veille et est dorénavant à $78.5.
On enchaîne avec l'actualité économique. Samsung Electronics a choisi Taylor au Texas comme site de sa nouvelle usine de semi-conducteurs aux États-Unis. Cette décision est intervenue 6 mois après l'annonce de son plan de construction. Les travaux seront lancés au premier semestre de l'année prochaine pour commencer l'opération au deuxième semestre 2024. Ce projet nécessite un budget de $17 milliards, un montant record que le géant sud-coréen de l'électronique n'a jamais investi sur le sol. La nouvelle usine sera dotée d'un procédé de fonderie de pointe afin de fabriquer des puces logistiques de différents secteurs dont le réseau 5G, le calcul intensif ou encore l'intelligence artificielle. Cette année marque le 25e anniversaire de la PEXC dans le secteur américain de Samsung Electronics et cette initiative ouvrira la voie à son nouvel avenir. Quels sont alors les points forts de cet emplacement? gouvernement à Taylor. Tout d'abord, le nouveau site étant situé seulement à 25 km de l'usine d'Austin, le conglomérat sud-coréen pourra exploiter les infrastructures qui existent déjà pour l'approvisionnement en eau et en électricité. De plus, comme le Texas abrite diverses entreprises dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et des universités prestigieuses, il sera plus facile de trouver de futurs clients et des travailleurs. Samsung s'attend à contribuer à la formation de la main-d'œuvre de la communauté locale à travers un don régulier et un système de stage.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
En politique intérieure, les sondages sur la présidentielle de mars prochain se multiplient. Un d'entre eux, dont le résultat a été publié aujourd'hui, place Yoon Suk-yeol devant Lee Jae-myung. Selon ce baromètre, le candidat du Parti du pouvoir du peuple, le PPP, principale force de l'opposition, est cette fois crédité de 44,1% des intentions de vote, contre 37% pour son rival le plus sérieux, celui du Minju, le parti présidentiel. Un écart qui s'est légèrement resserré, passant à 7,1 points contre 9,8 il y a 2 semaines. Loin derrière eux, Han Chol-soo du Parti du Peuple et Shim Sang-jeong du Parti de la Justice sont au coude à coude avec 4% et 3,8% respectivement. Quant à Kim Dong-hyun du mouvement La Nouvelle Vague, il collecte seulement 1,1%. Dans l'hypothèse d'un duel Yoon Lee, le premier est donné vainqueur. Il a recueilli 48,9% des intentions de vote, le second 39,3%. Le sondage a été réalisé lundi et mardi par l'Institut RealMeter pour la chaîne de télévision d'information en continu YTN. Un échantillon de 1011 hommes et femmes de plus de 18 ans a été sondé par téléphone. Le niveau de confiance est de 95% avec une marge d'erreur d'environ 3,1 points.
Pendant ce temps, la pré-campagne des candidats des deux principaux partis du pays dans la course à la Chungha-dae se poursuit. Aujourd'hui, Lee Jae-myung a pris part à une réunion organisée par sa formation Le Minju en vue de se pencher sur l'établissement des législations visant à améliorer le quotidien des Sud-Coréens. Certaines d'entre elles portent sur les promesses électorales de celui qui brigue la succession de Moon Jae-in à la Maison Bleue. Il s'agit entre autres de récupérer une partie des profits générés grâce à d'importants projets de promotion immobilière. Lee s'active dans le même temps pour restructurer son comité de campagne. Dans ce cadre, une équipe composée de jeunes a été formée aujourd'hui. Dans le camp d'en face, Yoon Suk-yeol peine toujours à composer le sien en cause. L'interminable bras de fer engagé entre le candidat du Parti du pouvoir du peuple, le PPP, et son ex-patron intérimaire, Kim Jong-in. En effet, Kim continue d'entretenir le flou sur sa participation, mettant en cause la présence de certaines figures que Yoon espère retenir dans son dispositif.
Le ministère de l'Éducation a dévoilé ce matin le nouveau programme des établissements scolaires pour préparer les lycéens au système de crédit qui sera mis en place en 2025. Un vent nouveau soufflera également sur l'école primaire et le collège. À l'école élémentaire, tout d'abord, les élèves pourront choisir des matières facultatives à partir de 2024. Diverses disciplines seront développées dans ce cadre et seront menées de façon autonome. En particulier, la vie joyeuse, composée de la musique, de l'art et du sport, et enseignée au CP et ECE1, sera élargie à 128 heures contre 80 actuellement. Ce pour inciter les enfants à faire plus d'activités physiques et des jeux en plein air. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le système de semestre libre, qui aujourd'hui compte 170 heures, sera réduit à 102. Il s'agit d'un dispositif permettant aux élèves en première année du collège de trouver leur aptitude et de découvrir leur potentielle carrière sans aller en cours. À la place, ceux en troisième année passeront le deuxième semestre en lien avec leur orientation professionnelle. Au lycée, sous le nouveau système de crédit, le semestre deviendra plus court pour 16 semaines contre 17 actuellement. Un crédit représente 50 minutes de cours par semaine pendant cette période. À partir de 2023, le nombre de crédits totaux reculera à 192 contre 204 aujourd'hui. Ce modèle est constitué de 4 crédits de base, 84 crédits obligatoires et 90 crédits sélectifs. Le ministère a révisé le système dans l'objectif de promouvoir les compétences des élèves afin de s'adapter aux futurs changements tels que la transition numérique, le réchauffement climatique ou encore le dépeuplement.
Enfin, pour terminer, nouvel épisode de grippe aviaire. On connaît maintenant le résultat de l'enquête épidémiologique sur le cas suspect signalé dans un élevage de canards situé à Tamian, dans le sud-ouest du territoire. Il s'agit bel et bien du virus de type H5N1 hautement pathogène. C'est donc le 8e cas confirmé dans des basses-cours sud-coréennes depuis le début de l'automne.
C'est la fin de ce journal qui vous était présenté par Yoon Hae-jung et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée.